France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et désormais à la tête de la revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui, bien sûr, sur cette fin de semaine folle à l'Assemblée nationale où une chatte peinerait à y retrouver ses petits. La classe politique sortira-t-elle grandie de ce moment de confusion? Les populistes en tireront-ils bénéfice? Voici l'une des questions que l'actualité de la semaine pose à notre invité, historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Il vient tout juste de sortir « Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France 19e, 21e siècle chez Gallimard, l'occasion de définir clairement ce terme populisme, de l'inscrire dans le temps long tout en essayant de saisir les spécificités du moment populiste que nous vivons. Aujourd'hui, l'historien Marc Lazare sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face à face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Le mois sans tabac commence, mais vous n'êtes pas fumeur ni l'un ni l'autre.
Non.
Aucun de nous trois. Allez, on commence avec cette semaine que j'ai qualifiée de folle à l'Assemblée nationale. En tout cas, une certaine confusion a régné sur les débats et sur la survie du gouvernement Lecornu après qu'Olivier Faure a déclaré hier soir qu'en l'état, je le cite, il n'y a pas de possibilité de voter ce budget. Dans la foulée, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole à l'Assemblée et il a tenté de reprendre la main.
Je pense qu'il faut changer de méthode puisque visiblement, le fait de le faire ici en transparence totale et devant les médias, au final, ne permet pas de le faire à cœur ouvert. Donc je vais demander à la ministre, et pas seulement qu'à la ministre, au ministre des Relations avec le Parlement, à l'ensemble des ministres concernés par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, les ministres Farandou, Rist, Amiel et d'autres, de bien vouloir réunir l'ensemble des personnes que chaque président de groupe va désigner pour essayer de se mettre d'accord sur les grands principes de l'atterrissage d'un texte pour la Sécu et pour le projet de loi de finances.
Gilles, dans ce qu'on entend, on entend à la fois l'idée que les débats seraient insincères parce que publics à l'Assemblée nationale, ce qui est intéressant d'ailleurs d'un point de vue démocratique, mais est-ce qu'on a entendu aussi un Premier ministre aux abois ou bien quelqu'un de résolu à trouver une solution? Est-ce que cette solution est possible?
Je crois qu'on est vraiment, et on ne mesure pas à quel point, dans une nouvelle période. Il y a fort longtemps, il y a plus de 25 ans, dans une autre vie, j'étais conseiller parlementaire du ministre des Finances. Donc je passais mon mois d'octobre sur les bancs
du
gouvernement, qui était Dominique Strauss-Kahn. Devant le gâteau parlementaire, devant le gâteau budgétaire, les parlementaires pouvaient le regarder, mais ils ne pouvaient pas vraiment y toucher. Et le gâteau qui ressortait de l'Assemblée nationale ressemblait furieusement au gâteau qui y était entré. Il y avait quelques fioritures qui avaient été modifiées, quelques milliards de francs à l'époque. Là, on est vraiment dans une nouvelle période, au sens où le nouveau budget qui va sortir, le nouveau gâteau, sera très différent de celui qui y était entré. D'ores et déjà, alors qu'on n'est qu'au début de la discussion, on a en moins les jours fériés, la suppression des deux jours fériés, le gel des pensions, annoncé hier par le Premier ministre, le gel des minima sociaux, la suspension des réformes des retraites. Et on a, en plus, l'augmentation de beaucoup de taxes, la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, sur les superdividendes, sur les rachats d'actions, sur les GAFAM, la création d'une taxe sur les multinationales et sur les holdings, et la modification profonde de l'impôt sur la fortune. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est si, à la fin, le gâteau sera consommable et s'il y aura un gâteau. S'il sera consommable, c'est que c'est frappant de voir à quel point il y a beaucoup d'improvisation. Je n'en donne juste que deux illustrations de cette semaine qui m'ont frappé. La taxe sur les multinationales qui a été créée, sur les multinationales étrangères, on ne sait pas si le rendement sera entre 1 et 25 milliards d'euros. L'impôt sur la fortune qui a subi hier, cette semaine, des modifications très profondes, des modifications d'ampleur qui est à la fois allégée parce qu'il y a un abattement de 1 million d'euros sur la résidence principale, qui est alourdi parce qu'on élargit l'assiette, notamment aux obligations d'État, ce qui est intéressant pour le financement de la dette de l'État, et qui est modifié avec un taux unique de 1%, là où il y avait où c'était progressif, personne ne sait ce que ça va donner. Donc on ne sait pas si le gâteau sera consommable. Et enfin, et je termine par là pour en venir à la méthode du Premier ministre, c'est que on ne sait pas s'il y aura un gâteau tout court, parce que le compromis est difficile à trouver. Et je crois que la question est celle que pose le Premier ministre est juste, mais qu'il n'y va qu'à moitié. Est-ce que c'est une bonne méthode ? En fait, c'est un peu comme si, comme les libéraux en économie qui pensent que le libre jeu du marché aboutit à un optimum, c'est comme si on avait fait la même chose à l'Assemblée nationale, que le libre jeu du débat allait aboutir, 149-3, à une situation satisfaisante pour chacun. Je pense qu'on commence à s'apercevoir qu'on n'y est pas et que donc il faut sans doute procéder autrement et essayer de trouver un compromis. Si on était iconoclaste jusqu'au bout, la question du 49-3, en réalité, mériterait d'être reposée parce qu'elle faciliterait peut-être, une fois ce compromis trouvé, l'adoption d'un budget. Mais là, je doute qu'on aille jusque-là.
Natacha, je poursuis la métaphore culinaire de pâtissière de Gilles. Est-ce que le four, l'Assemblée nationale, est trop chaud aujourd'hui pour sortir un gâteau comestible à la fin ?
Alors, je le crains. D'autant que Gilles évoquait la question de la doctrine libérale du libre jeu des acteurs, de la main invisible qui est censée régler tout. Le problème, c'est que la doctrine libérale s'appuie sur un postulat, la rationalité des acteurs. Et c'est là où on peut se poser quelques questions. Parce que les secrétaires des débats à l'Assemblée, ceux qui sont chargés de noter, de rendre compte de ces débats, expliquent à quel point ils n'ont jamais vu une ambiance comme celle-là, aussi délétère, aussi tendue, et on aboutit à un grand bazar. Je vais prendre deux exemples dans ce qui s'est passé cette semaine, où il y a eu énormément de rebondissements. Deux exemples qui, selon moi, montrent que nous sommes non pas dans la tentative d'élaborer un budget et de penser une politique bénéfique pour la France, mais dans la posture et le spectacle. Le premier exemple, c'est le vote de l'amendement sur les multinationales que Gilles a évoqué, dont on ne sait pas si le rendement serait de 1 milliard ou de 25, 26 milliards, peu importe, puisque visiblement, ça n'était pas le problème de ceux qui l'ont proposé. Et je dis cela tout en expliquant que, pour ma part, j'estime que le rapatriement des profits des multinationales dans des paradis fiscaux est l'un des sujets fondamentaux aujourd'hui. Si on ne s'attaque pas à ce sujet, on ne pourra pas relever les finances publiques et essayer de relancer l'économie française. Donc c'est un sujet extrêmement important. Pour autant, l'amendement tel qu'il a été voté, on l'a vu par une coalition du RN, de LFI et du Parti Socialiste, contrevient au traité européen et est donc déclaré inapplicable, notamment par le bloc central qui explique que tout cela est une forfaiture. Et j'ai entendu pour ma part le député socialiste Philippe Brun commenter sur une chaîne d'information cet amendement en disant « Ne vous inquiétez pas, de toute façon il ne s'appliquera pas, donc c'est pas le problème ». Et là, je pense qu'on se moque des citoyens d'une manière qui est absolument extraordinaire, puisque donc nous avons des députés qui votent des choses dont ils savent qu'elles sont inapplicables sans aller jusqu'au bout de la réflexion, tout simplement par souci de se mettre en scène. Deuxième exemple, la niche Rassemblement National, donc là on n'est pas dans la question budgétaire, mais sur la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Bah, c'est à peu près la même chose. On se fait plaisir, on vote quelque chose, et là encore, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette question, notamment pour sortir de cette espèce de position d'ex-puissance coloniale qu'a la France, et pour faire en sorte que les ressortissants des différents pays du Maghreb soient traités de la même manière, donc très bien. Mais là, on se retrouve avec un jeu de rôle dans lequel Jean-Luc Mélenchon, par exemple, se répand en expliquant que c'est une déclaration de guerre, etc. Alors même que nous savons tous très bien que la politique étrangère relève du chef de l'État, et que donc tout ça a donné lieu à un spectacle que certains trouveront peut-être sympathique, mais qui est assez consternant. Ça illustre en effet la métaphore culinaire de Gilles. Je pense que le gâteau est assez indigeste, Pour ma part, en tout cas, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'y goûter.
j'entends aussi dans ce que vous avez dit, il y a la métaphore culinaire et la métaphore du spectacle. Vous avez dit mise en scène, spectaculaire, qu'on ne s'intéresse pas en fait aux effets de ce qu'on produit, mais uniquement de ce qui est produit. Gilles, là, c'est une dérive parlementaire. Là, au moment où précisément, on avait, en tout cas l'exécutif, avait considéré que c'était un moment parlementaire comme jamais peut-être dans l'histoire. Est-ce que ça veut dire que le Parlement n'est pas au niveau du moment historique que l'on vit ?
Je ne pense pas que ce soit seulement une dérive parlementaire. C'est une dérive de la politique telle qu'elle est et telle qu'elle va, dans laquelle on accorde une grande importance, et sans doute une importance démesurée, au symbole. Alors, ça a été vrai dans ce qui a été le motif de la non-censure initiale avec l'engagement de la suspension de la réforme des retraites.
Et du 49.3.
Et du 49.3. Mais donc, enfin, ça, c'est des symboles qui sont plus que des symboles. Oui. Hein, c'est quelque chose de très important. C'est vrai aussi sur la taxe des multinationales qu'évoquait Natacha. C'est vrai aussi du débat qui a eu lieu cette semaine, qui a été tranché hier, sur la taxe Zucman, qui était à la fois symbole positif pour la gauche et symbole repoussoir pour la droite. La question, c'est cette taxe ayant été rejetée, est-ce qu'il y a un ensemble de mesures plus techniques qui vont être finalement adoptées et dont l'addition sera telle que, à la fin, un compromis sera possible, moins spectaculaire, mais qui ferait qu'il y aura au moins, je ne sais pas s'il sera digeste ou pas, mais qu'il y aura un gâteau à manger.
En tout cas, lâcher Netflix et allumer LCP, c'est carrément hypnotique.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On en vient à ce procès pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, ciblée par une accusation rocambolesque, mais aussi très violente pour la mise en cause, selon laquelle la première dame n'aurait jamais existé, que son frère Jean-Michel Trogneux aurait pris son identité après une transition de genre. Des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis et des amendes ont été requises mardi par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Paris contre 10 prévenus. La décision sera rendue le 5 janvier 2026. On écoute Maître Jean-Claude Fabian, l'un des avocats des prévenus.
Parce que le problème aussi, c'est que ces échanges entre de tweets ne sont pas adressés à Mme Macron. Ça n'est pas, on n'a pas envoyé ces tweets à Mme Macron. C'est des personnes qui échangent entre elles. Bon, c'est pas la même chose que d'être insulté directement. Là, on est dans le harcèlement aujourd'hui, ce qui est encore une différence. Hein, parce qu'éventuellement, vous pouvez effectivement vous considérer injurié ou diffamé parce qu'on dit ça. Mais ça n'est pas l'objet du procès d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le harcèlement.
Et les prévenus, Natacha, ont aussi évoqué La Fontaine, des figures de la liberté d'expression de Charlie Hebdo. On s'y perd un peu, permettez-moi de vous demander de nous aider à nous y retrouver.
Oui, il faut d'autant plus éclaircir cette affaire qu'elle est extrêmement intéressante. Et je crois d'ailleurs que, contrairement à la position de certains, je pense que Brigitte Macron a eu raison de porter plainte. Parce que ça permet justement de mettre sur la table l'ensemble de ces personnages et de les forcer en partie à se dévoiler, notamment Aurélien Poisson-Atlan, qui est l'auteur de ce site, de ce compte Twitter intitulé Zoé Sagan, et dont il prétend aujourd'hui que c'est une sorte d'œuvre d'art, enfin dont il a toujours d'ailleurs prétendu que c'était une sorte d'œuvre littéraire, alors même qu'il a même parlé lors du procès d'une forme de bistrot contemporain. C'est joli. Le fait est que ce genre de manipulation est profondément problématique. Pourquoi ? Parce que les algorithmes de Twitter poussent un compte comme celui-là. Je peux par exemple témoigner avoir vu apparaître un jour ce site sur ma ligne Twitter sans savoir d'où ça sortait, et c'était en permanence. Et pour bien résumer, il n'y a pas là seulement une question de réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que cette rumeur absolument infecte contre Brigitte Macron, elle a été développée, mais personne n'a pris suffisamment en compte le fait qu'elle pouvait être arrêtée assez vite. Il y a un site, Blast, qui a fait le travail et qui est immédiatement s'est dit, bon, on va faire un travail de journaliste, allons-y. Le problème, c'est que les autres médias considéraient cette espèce de rumeur ignoble comme un truc auquel il ne fallait pas toucher parce que c'était en effet un fait. Alors que Blast a tout simplement fait le travail et est allé retrouver Jean-Michel Trogneux, etc., de telle sorte qu'il a, en gros, fait un fact-checking. Il suffisait de mettre en avant ce travail-là le plus possible pour contrer ces rumeurs que, hélas, certains prennent au sérieux. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une question d'éducation, de, en fait, de naïveté, de crédulité, et surtout, ça se dépose sur un lit qui est un lit de défiance vis-à-vis du pouvoir. Donc, en fait, nous sommes dans une question qui est éminemment une question démocratique et qui se pose parce que il y a petit à petit des tas de gens qui se sont détournés des, on va dire, de, des médias institutionnels, de, du discours officiel. Et c'est ça qui est profondément dangereux. Est-ce que ça concerne seulement les réseaux sociaux ? Je ne pense pas. Les réseaux sociaux sont un amplificateur extrêmement néfaste de cela. Mais quand on voit donc le fameux Aurélien Poisson-Atlan aujourd'hui prendre du recul et prétendre que tout cela, après tout, n'était qu'une plaisanterie, il faut rappeler que ce conte Zoé Sagan servait aussi à des politiques ou d'autres pour faire passer des messages, des mises en cause.
Oui, notamment sur un mythe du cinéma qui n'est jamais arrivé.
Voilà, tout le monde a joué avec le feu. Et donc, ce n'est pas seulement une question de réseaux sociaux, c'est une question de, on va dire, de respect de la République, de la démocratie et de ses mécanismes.
Et précisément, cette semaine, Gilles, le président de la République a réuni à l'Élysée un parterre de sommités, d'experts, d'analystes, de commentateurs de la démocratie pour évoquer la menace des réseaux sociaux. Et ça tombe bien, on avait une petite souris sur place puisque vous étiez présent.
Alors, après le gâteau, la petite souris.
C'est ratatouille, notre émission aujourd'hui.
Voilà, qui a grignoté un petit bout du gâteau. Alors, on était sur un thème classique. Oui. Hein, la démocratie et les réseaux sociaux qu'on avait exploré ici même, soit avec Natacha, soit avec des invités, oui. Depuis des mois et des mois. Mais là, c'était une forme de happening un peu improvisé et un peu désordonné qui était intéressant en raison de la diversité des participants. Il y avait à la fois des ministres, les parlementaires, notamment ceux, on en avait parlé ici, qui avaient dirigé la commission d'enquête sur TikTok, des oui. chercheurs, des experts, spécialistes du cerveau, de la démocratie, des réseaux sociaux, beaucoup de praticiens, des enseignants, des médecins, des avocats, des responsables d'associations, des youtubeurs. Et on mesurait tout le travail qui a été accompli par les uns et par les autres et l'ensemble des propositions qui sont sur la table.
C'était un peu en mode grand débat, tout le monde parle, le président prend des notes.
C'était exactement en mode grand débat et il y avait des choses intéressantes, je vous en donne juste une ou deux ou trois illustrations pour être très concret. Et il y avait la principale du collège en Ardèche qui a été la première à faire une expérimentation sur l'interdiction des mobiles dans le collège. Et donc, grâce à laquelle il y avait un retour d'expérience et qui montrait à la fois à quel point rapidement ce qui était un acte contraint devenait un acte naturel et à quel point aussi rapidement cela avait des effets positifs à la fois sur la concentration des élèves et sur le nombre d'interactions. Deuxième illustration, sur une interrogation que je trouvais intéressante d'un médecin qui disait « Dans la bataille sur la vérité scientifique, la plupart des grandes institutions médicales ont quitté le réseau X.
Oui.
Est-ce qu'elles ont eu raison de le faire parce que c'est impossible d'y mener la bataille ou est-ce qu'elles ont déserté le terrain et lui, il penchait plutôt pour ça ? Je trouve que c'était intéressant. Troisième illustration, un autre spécialiste qui soulignait, et je crois qu'il a parfaitement raison, que la légitimité des processus électoraux va être attaquée. Oui. Et il dit que c'est possible de s'y préparer, mais qu'il faut s'y préparer tôt. En gros, il dit c'est 18 mois, donc c'est maintenant. Donc il y avait comme ça des choses qui étaient, je crois, intéressantes. C'était un effet d'agenda, de fait qu'on en parle. Et on voyait la prise de conscience du président de la République qui a dit on a fait trop peu, trop tard. Il va falloir changer la nature des relations avec les plateformes. On est au début d'un travail de résistance, a-t-il dit. Et en même temps, et je termine par là, c'était un peu déconcertant, à la fois par le format, 200, 250, 300 personnes, c'est peu propice à avoir un véritable échange,
oui.
Par l'objet de la réunion qui était un peu obscur,
oui.
Et surtout par les débouchés de cette réunion qui sont incertains parce que le temps presse, les moyens manquent et le capital politique du président est assez démonétisé. Sur cette question-là, il y a eu une enquête cette semaine sur est-ce que le président est attaché aux valeurs démocratiques ? 69% des Français répondent non. Donc, Ce qui est un score qui est inquiétant. Et donc, intéressant et déconcertant.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les Argentins ont montré qu'ils ne veulent pas revenir au modèle de l'échec, au modèle de l'inflation, au modèle de l'émission monétaire, au modèle d'un État inutile, au modèle de l'insécurité. Les Argentins leur ont dit « assez de populisme, plus jamais de populisme ».
Le président à la tronçonneuse, l'Argentin Javier Milei, dont la coalition d'extrême droite est parvenue à déjouer tous les pronostics lors des élections de mi-mandat, législatives de mi-mandat, où son parti, la Liberté Avance, Libertad Avanza, a obtenu 41% des suffrages, 9 points de plus que l'opposition péroniste. Ça raconte quoi, Gilles, cette victoire, ou en tout cas cette semi-victoire, en tout cas cette absence d'échec que beaucoup prédisaient? Est-ce que ça dit aussi la faiblesse de l'opposition? Parce que très souvent, on oublie que pour vaincre un populiste, et on en parlera avec Marc Lazare, il ne suffit pas de le dépeindre comme le diable.
Et absolument. Ce qui était en jeu, c'est du classique. On est dans un régime présidentiel, ce sont les élections demi-mandat, un peu comme aux États-Unis, pas exactement comme aux États-Unis, c'est-à-dire en Argentine, c'était la moitié de l'Assemblée nationale et le tiers du Sénat, donc du classique dans du baroque qui est Javier Milei dans du très baroque. Et les résultats, ça a été un peu plus quand même qu'une non-défaite du Parti de la Liberté. C'est une vraie victoire. Pourquoi ça a été une surprise? Pas tellement en raison des sondages, ou pas seulement en raison des sondages, parce qu'ils donnaient tous, contrairement à ce qu'on a dit, une avance au parti de Javier Milei. Mais avec un écart qui était un écart moindre, et il s'était trompé dans l'autre sens il y a un mois dans les élections à Buenos Aires. Mais en raison de trois données qui sont des données objectives. La première, c'est une donnée économique, c'est que la vie quotidienne est de plus en plus difficile pour les Argentins. La deuxième, elle est d'ordre moral, c'est que Javier Milei a fait campagne beaucoup contre la corruption.
Oui.
Et il a été lui-même touché par une affaire de corruption sur le scandale des crypto-monnaies, et sa sœur, qui joue un rôle absolument considérable, par un scandale de pot de vin sur des médicaments pour des handicapés. Et enfin, troisième difficulté, elle était d'ordre politique, c'est qu'il y a un mois, il a subi un revers électoral qui était très rude. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une surprise, et pas seulement en raison des sondages. Il faut essayer d'en comprendre les causes, et ça va permettre de faire la transition avec Marc Lazare. C'est un mélange, je crois, dont il est difficile de déterminer les parts respectives. Il y a des causes internes. Alors, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, pour partie, l'adhésion à Javier Milei, qui existe, et qui est forte, à la fois au style, voire aux résultats, notamment sur l'inflation, et pour partie au rejet de l'opposition péroniste, à la fois opposition sans nuance, sans projet, sans leader, mais avec un passif, notamment sur la question de la corruption. Et puis, je termine par là, il y a une cause sans doute insuffisamment relevée, qui est l'intervention financière, pas comme au Venezuela, l'intervention financière des États-Unis et notamment de Donald Trump, qui a promis et conditionné une injection de 20 milliards de dollars dans l'économie argentine à la victoire de Javier Milei.
Injection, ingérence aussi. Hein.
Injection, intervention, ingérence. Et dans une situation dans laquelle la vie est si difficile, c'est un élément, je crois, qui a pesé.
Natacha.
Alors, je vais prolonger sur ce point-là parce qu'il me semble absolument essentiel. En effet, certes, il y a une adhésion à Javier Milei de la part d'un peuple argentin qui est habitué aux difficultés absolument gigantesques et donc habitué à des purges. Mais le point essentiel, la nouveauté, me semble-t-il, c'est qu'en fait, la situation de l'Argentine est à inscrire dans les rapports de force mondiaux. Et l'ingérence, elle est caractérisée. Elle vient de la part de Donald Trump, elle vient de la part de Sam Altman et OpenAI qui promettent des investissements, elle vient de la part de Scott Bessent qui a expliqué le 23 septembre le succès de l'Argentine revêt une importance systémique. Et en fait, les États-Unis ont utilisé, ont tordu le bras du FMI pour utiliser le fonds de stabilisation pour le promettre 20 milliards à l'Argentine. Pourquoi ? Parce que l'Argentine est un élément du dispositif, non pas seulement de la vieille doctrine Monroe, c'est-à-dire l'influence des États-Unis en Amérique latine, mais un dispositif pour contrer la Chine et la façon dont la Chine se déploie en Amérique latine. Et Donald Trump espère un effet domino, l'Argentine maintenant, peut-être le Chili en novembre, et ainsi de suite. Et donc, tout cela revêt
une Venezuela
importance
et le Venezuela et la Colombie.
Mais bien sûr, Venezuela, Colombie. On n'est plus dans en 1973 avec un coup d'État soutenu par la CIA, mais on est sur un autre mode d'action. Et c'est en cela que la réaction des droites et des extrêmes droites françaises et européennes qui hurlent au génie de Milley est un peu inquiétante, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de passer complètement à côté de ces enjeux qui sont en fait ceux qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous et comment nous, Français, nous, Européens, nous pourrions répondre à cela. Donc, la tronçonneuse, c'est une façon de ne pas regarder le reste, la vérité de ce qui est en train de se passer.
Un mot, Gilles, derrière la tronçonneuse, qu'y a-t-il ?
Oui, juste un mot. Comme leçon 1, on voit que les droites traditionnelles, là encore, ont été absorbées par l'extrême droite. Deux, que quand même, il faut le dire, conséquence institutionnelle, c'est que Javier Milei n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est un élément très important. Il peut maintenant gouverner par décret sans risquer d'être surmonté par l'Assemblée nationale. Et sur la dimension géopolitique qu'évoquait Natacha, on voit que la vassalisation de l'Argentine est une vassalisation inutile, et notamment par rapport à la Chine. Parce que cette même semaine, il y a eu un accord entre la Chine et les États-Unis, on en avait parlé la semaine dernière, dont une des dimensions est que les Chinois vont à nouveau acheter du soja aux Américains. Or, à qui les Chinois achetaient-ils du soja jusque-là ? Eh bien, c'était à l'Argentine et au Brésil. Et donc, c'est un rude coup. Et donc, la vassalisation est une vassalisation inutile, et le partenaire américain est un partenaire, là aussi, qui est un partenaire peu fiable.
Je crois que c'est la première fois que les trois thèmes d'un duel conduisent très naturellement à notre invité, parce que quand on réfléchit bien, la crise parlementaire, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement et la menace pour la démocratie et l'exemple argentin, tout cela nous conduit évidemment à faire un point sur le populisme. C'est l'heure du débat.
Le grand face-à-face. Le débat.
Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un de nos grands historiens, professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialiste du politique et de l'Italie, deux spécialités qui vous conduisaient assez naturellement à vous intéresser au populisme. 6 ans après Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, vous prolongez votre réflexion en l'élargissant dans le temps et en la réduisant dans l'espace. Résultat, pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle, toujours chez Gallimard. Avec Gilles et Natacha, on va revenir ensemble sur cette histoire pour y déceler en bons historiens des ruptures et des permanences. Et pour commencer, je vous propose de revenir 70 ans en arrière. Nous sommes en décembre 1955 et Pierre Poujade, ce papetier du Lot qui a mené en 1953 une révolte des commerçants et des artisans contre les agents du fisc, se lance désormais à la conquête de l'Assemblée nationale avec son parti, l'Union et Fraternité Française. Il s'adresse aux Français à la radio quelques jours avant les législatives de janvier 1956.
Je voudrais que chaque Français, ouvriers, paysans, fonctionnaires, jeunes et vieux, comprennent avec nous qu'il sera sauvé avec la France ou qu'il sera perdu avec elle. C'est donc en français moyen que je te parle. Un homme, parmi ces millions qui travaillent chaque jour et qui, au soir d'une rude journée, mettent la main sur l'épaule de leur femme pour regarder des enfants qui grandissent en s'interrogeant anxieusement sur leur avenir.
Marc Lazare, j'ai choisi cet extrait parce qu'il me semble contenir quelques éléments assez intéressant si l'on cherche, pour commencer notre entretien, à définir simplement ce qu'est le populisme.
Oui, mais merci d'avoir choisi cet entretien. Je reconnais que je le connaissais pas malgré le chapitre que je consacre à Poujade et
j'ai mis du temps à le trouver.
Et au poujadisme, bah, bravo. On voit que vous êtes un bon historien vous aussi. Mais non, c'est intéressant parce que on voit quelqu'un qui d'abord tutoie.
Oui.
Et ça, c'est évidemment cette proximité affirmée. Et c'est important à l'époque. Donc 1955, on n'a pas l'habitude dans la classe politique de faire ça. Le tutoiement s'est généralisé en France, mais encore aujourd'hui, je crois
c'est
qu'il y en a peu qui oseraient faire ça à la radio ou à la télévision.
Ouais.
Et puis l'idée, le déclin de la France. Hein. La France est au bord du déclin. Alors nous sommes dans un contexte assez particulier. Il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'à la fois c'est le grand moment du développement, ce qu'on va appeler les 30 glorieuses, on est en plein dedans, qui laisse sur le côté un certain nombre de populations, dont celles auxquelles s'adresse d'ailleurs Pierre Poujade dans ce discours et qu'il représente lui-même, c'est-à-dire les artisans, les petits commerçants. Puis nous sommes dans un moment extraordinairement compliqué parce que depuis novembre 1954, ben c'est la guerre. On n'utilise pas ce mot d'ailleurs à l'époque, mais c'est la guerre d'Algérie. Donc on est dans ce contexte et effectivement Poujade est une très bonne illustration de ce qu'on peut appeler le populisme.
Ouais, et puis il dit, hein, je mets la main sur l'épaule de mon épouse, on
bien
travaille,
sûr.
C'est nous qui travaillons. Roland Barthes, dans ses mythologies, paru à cette époque, en 57, pointera l'anti-intellectualisme de Poujade et son corollaire, l'appel permanent au bon sens. Ça, c'est aussi très important pour définir ce qu'est le populisme.
Dans toutes les expériences du populisme que l'on a connues en France, et donc on en a beaucoup, on retrouve effectivement ces deux choses. Le bon sens est absolument très très important, c'est-à-dire que le peuple, par essence, aurait justement du bon sens, et tous ceux qui aiment le peuple, enfin tous ceux qui proclament leur amour pour le peuple, et donc qu'on peut appeler populiste, insistent sur ce bon sens. Ce bon sens, c'est donc par rapport à quoi on dirait aujourd'hui les sachants, ceux qui sont au pouvoir. C'est évidemment un élément tout à fait important. Et c'est vrai, Roland Barthes, qui a vécu à cette époque, dans ses chroniques qui ont été rassemblées dans le livre qui toujours, vraiment, que je conseille de lire et de relire, parce
absolument.
Que c'est absolument formidable, non seulement pour l'époque, mais pour la pénétration, justement, des idées de Roland Barthes, eh bien, effectivement, a été choqué par cet anti-intellectualisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'histoire du populisme en France.
Par exemple ?
Par exemple, on le retrouve, y compris chez Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui commence sa carrière politique.
Il sera élu après ça.
Exactement, le 2 janvier 1956. Peut-être qu'on aura des élections en janvier 2026. Laissons ça de côté pour le moment. Et donc, en janvier 1956, Jean-Marie Le Pen arrive sur les bancs de l'hémicycle à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, et va se faire remarquer. Oui, chez Jean-Marie Le Pen, on le voit aussi. Mais je prends un autre exemple dans le livre. Moi, ce que j'appelle les populismes intermittents. On viendra peut-être sur cette distinction que je propose. Mais Gérald Darmanin, récemment, a expliqué qu'il faisait plus confiance à un charcutier traiteur de sa bonne ville de Tourcoing par rapport aux experts. Donc Gérald Darmanin, ministre actuel de la Justice.
C'était même pas par rapport aux experts, c'était par rapport aux statistiques de son propre ministère.
Absolument, vous avez raison de me... Merci d'avoir bien lu mon livre alors que j'ai un tout petit moment d'Alzheimer. Là. Donc,
non.
Merci beaucoup Gilles.
Gilles.
Alors après avoir lu votre livre, Marc Lazare, je me suis demandé, est-ce un classique ? Alors évidemment, ça ne peut pas être un classique puisqu'il est sorti la semaine dernière, mais il devrait l'être, tant un classique, c'est le livre qu'un citoyen informé devrait avoir lu. Et je crois que c'est vraiment ça, il devra être dans les bibliothèques, et non seulement être dans les bibliothèques, mais être lu par les citoyens qui veulent comprendre cette question-là. Je voudrais prolonger la question de Thomas, c'est-à-dire commencer par questionner l'objet même de votre livre, c'est-à-dire le populisme dans sa définition. Parce que c'est un terrain qui est à la fois labouré, vous citez ce chiffre absolument stupéfiant de 24 000 livres en langue anglaise qui ont été publiés sur le sujet entre 1990 et 2023, et il est en même temps...
Je ne les ai pas tous lus.
Petite déception. Et il est en même temps contesté par tous ceux qui disent que c'est un qualificatif qui n'est que disqualifiant.
Oui.
Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes très prudent, vous montrez que c'est un concept qui est plastique, qu'il est très divers, qu'il peut être de gauche, qu'il peut être de droite, que convoquer la souveraineté du peuple, ce n'est pas nécessairement, évidemment, un marqueur de populisme. Et vous retenez parmi les critères principaux l'idéologie, mais en disant « c'est une idéologie peu substantielle » et le style, un langage cru, des images fortes, l'appel à l'émotion qui est
partagé par tant aujourd'hui que une idéologie peu substantielle et un style partagé par tous. Le populisme existe-t-il ?
Marc Lazare.
Oui, alors je crois qu'on est confronté à une vraie question qui n'est pas inédite. Et je me permets de faire ce parallèle avec les années 20-30 en Europe. Lorsque un certain nombre de contemporains, responsables politiques, intellectuels, confrontés à l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, comme on disait en Russie avec Lénine, puis ensuite avec Staline, avec Mussolini en Italie et avec Hitler à partir de 1933 en Allemagne, disaient bah, c'est pas la démocratie, ouais. Ça c'est clair. Mais c'est pas les dictatures classiques. Et donc progressivement est né cet adjectif d'abord en Italie totalitaire qui va donner un néologisme après la Seconde Guerre mondiale de totalitarisme. Je crois qu'on est confronté, toutes choses étant égales par ailleurs, à cela. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui échappe aux catégories politiques habituelles. Et donc oui, c'est difficile à définir. Moi je retiens, contrairement à un certain nombre de gens qui disent c'est tellement compliqué, c'est tellement disqualifiant aussi, c'est tellement instrumentalisé en politique qu'il vaut mieux du point de vue de la recherche, ne pas utiliser ce mot. Moi, je crois qu'il faut s'y confronter. Et effectivement, je retiens trois types de définitions dans cette énorme production qu'il y a. D'une part, celle de l'idéologie, vous l'avez rappelé, Gilles, avec une petite nuance, c'est-à-dire que les adeptes de cette définition expliquent que cette idéologie consiste entre une opposition terme à terme entre le peuple et les élites. Mais quand on étudie cas par cas, on nuance un peu ça. Mais oui, il y a une dimension idéologique. La deuxième, c'est le style, mais relié à une stratégie, stratégie pour conquérir le pouvoir ou pour exercer le pouvoir. Et puis le troisième point, et ça c'est important, c'est un point, j'allais dire, d'un point de vue culturel, c'est aussi l'expression d'une certaine culture, entre guillemets, du bas, culture populaire qui serait opposée à la culture des dominants. Alors je mets beaucoup beaucoup de conditionnels parce qu'on sait qu'il n'y a pas une opposition terme à terme entre la culture dominante et la culture populaire. Aujourd'hui dans la culture populaire il peut y avoir des éléments de la culture dominante, je ne sais pas, par exemple de la musique américaine. Bon.
Est-ce que ça veut dire que une fois au pouvoir le populisme est un totalitarisme parce qu'il remplace une culture par une autre ?
Je ne le crois pas. En tout cas, dans l'état actuel, parce que là encore, il faut faire attention. Dans l'histoire, en tout cas en France, les populistes n'ont pas été au pouvoir, sauf...
Oui, votre livre porte sur la France.
Voilà, porte sur la France. Ils n'en ont pas été. Ils n'ont pas été avec le général Boulanger. Ils n'ont pas été dans les années 30 avec les Ligues. J'allais dire sauf au moment de Vichy, oui. Où il y a une dimension... Le vichisme, l'état français de Pétain ne se résume pas au populisme, mais il y a une dimension populiste. Pour le moment, nous n'avons pas connu cette expérience. Dans les pays où nous avons une expérience populiste au pouvoir. Alors, vous avez eu l'amabilité de rappeler que je m'intéressais beaucoup à l'Italie. On en a une, parce qu'il y a eu Silvio Berlusconi, il y a eu le mouvement 5 étoiles et la Ligue pendant un an au pouvoir ensemble, et puis on a Giorgia Meloni au pouvoir. Non, il n'y a pas de totalitarisme pour le moment, il n'y a pas suppression des libertés, il n'y a pas un parti unique, il n'y a pas cette volonté d'engendrer une humanité nouvelle. Non, on n'est pas à ce stade-là. Et donc, faisons attention aux mots. C'est comme un autre mot qu'on utilise beaucoup quand on pense au populisme, qui est le mot fasciste. Oui. Il y a une extension aujourd'hui de la notion de fascisme. J'essaye dans le livre de donner un certain nombre de définitions pour dire attention aux mots qu'on emploie. Vous savez, je sais Thomas Stengaroff que vous êtes un historien dans l'âme et vous connaissez la grande formule d'un de nos grands historiens, Lucien Febvre, toute histoire commence par l'histoire d'un mot. Oui. Et effectivement, quand on est confronté à des sujets comme ça, qui sont à la fois obsédants et difficiles à définir, mais il faut être très précis dans l'usage des notions et des mots.
Et à vous lire, le fascisme est un populisme. Mais tout populisme n'est pas un fascisme.
Exactement.
Natacha.
Oui, et la distinction me semble d'autant plus essentielle qu'en effet, votre livre essaye de dessiner des contours qui sont des contours extrêmement vastes, au point que la question qui se pose, c'est comment contester des dysfonctionnements d'une démocratie libérale représentative sans tomber dans le populisme. Parce que vous écrivez à propos du populisme en France, ces poussées soudaines qui s'estompent presque aussi vite qu'elles ne sont apparues, ces résurgences réitérées et les longues phases au cours desquelles il se répand largement, révèlent trois grandes dispositions structurelles de la France. Le malaise démocratique, la fracture sociale dans un pays travaillé par la passion de l'égalité, selon la formule de Tocqueville. Enfin, le rapport sensible des Français à la nation. Vous faisiez remarquer que, à part l'exception de Vichy, le populisme n'a jamais débouché sur une forme de totalitarisme, de fascisme en France. Est-ce que ce n'est pas, en fait, dû à l'histoire de France, à ce rapport sensible à la nation, ce rapport à l'égalité? Et est-ce qu'on ne peut pas voir dans le populisme une façon de tenir, je dirais, la démocratie représentative au nom de la promesse républicaine de 1789, auquel cas le populisme, ce n'est pas juste un prurite, c'est aussi une demande dont il faudrait comprendre les fondements.
Oui, je suis tout à fait d'accord et je crois que justement c'est une des thèses du livre et je vous remercie Natacha de soulever cette question parce que elle est très profonde. Je crois qu'effectivement ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage et ce qui m'a marqué au fur et à mesure de la recherche, c'est cette récurrence des phénomènes populistes et vous l'avez rappelé, il y a des moments où on va employer une métaphore, c'est des poussées de fièvre et ça disparaît, c'est le cas du poujadisme que l'on vient d'évoquer.
Ou du boulangisme.
Voilà, ou du cas très intéressant, matriciel du boulangisme entre 1887 et 1891. C'est très court, mais ça a un puissant, impact considérable en France, donc à la fin du 19e siècle. Et puis, des phases beaucoup plus longues, et nous sommes dans cette phase très très longue. Et qu'est-ce que ça révèle d'un point de vue politique? C'est cette tension fondamentale qui se noue dès la Révolution française et qui projette son ombre jusqu'à nos jours, entre d'un côté la représentation et de l'autre côté l'expression de la souveraineté populaire. Et en France, on a beaucoup de mal à concilier les deux. Il y a cette tension permanente. Alors, il y a des moments où la représentation est acceptée dans notre histoire, où il n'y a pas de problème, parce qu'il y a toute une série, j'allais dire, de conditions favorables, la situation économique, un apaisement aussi des tensions internationales. Et donc, ça fonctionne. Bon, par exemple, en gros, de 1958, malgré la guerre d'Algérie, jusqu'à la fin des années 60. Là, on a une dizaine d'années où la question de la représentation n'est pas remise en cause. Et puis, il y a des moments où, effectivement, lorsque la représentation n'arrive pas à régler les questions de défiance politique, des questions de socio-économique, ou de répondre aux interrogations culturelles, à ce moment-là, la souveraineté populaire se manifeste et peut prendre des formes de populisme. Donc oui, je vous rejoins, et c'est pour ça que je dis, j'emploie là aussi une métaphore, le populisme c'est comme la liane qui s'entoure autour de l'arbre pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il est présent, et je dirais qu'il est présent dans toutes les démocraties, mais en France, plus facilement, plus fréquemment, il y a justement cette extension du populisme.
D'où l'intérêt de bien poser l'arbre. L'arbre, c'est la République française, ce sont ses principes, parce qu'on écoutait il y a un instant Javier Milei, et peut-être des gens ont tendu l'oreille en entendant dire qu'il avait gagné parce qu'il était contre le populisme. Ça raconte. Non, mais il y a des histoires nationales. Il y a une internationale populiste, mais il y a aussi des histoires nationales, Marc Lazare.
Oui, tout à fait. Alors, dans le cas argentin, évidemment, lorsque Milei parle du populisme, il pense au péronisme. Parce que le continent. Alors, si on élargit le regard, ce que j'avais fait un peu dans Peuple, j'allais dire à l'italienne, parce que le livre était d'abord sorti en Italie. La popolocratie, ça sent mieux que popolocratie. C'est vrai. Avec Ilvo Diamanti. Oui, là, on avait. Élargit beaucoup plus le regard, la focale est centrée sur la France. Oui, s'il y a un continent par excellence du populisme, c'est le continent latino-américain, ça c'est sûr. Et en particulier l'Argentine, mais aussi le Brésil historiquement. Et donc, oui, quand Milei parle de ça, il parle justement du péronisme. Moi je rajouterais, d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse pour revenir à un moment, parce que ça a un lien aussi avec le populisme en France, c'est que peut-être une des raisons de la victoire récente de Milei, c'est aussi le fait qu'il a un certain type de récit national. Et ça, c'est très important, parce que le populisme est toujours lié à une dimension de la nation. Mmh. Et le récit de la résurrection nationale que promet Milei peut l'emporter, d'autant plus que, cette fois-ci, il y a eu un très fort taux d'abstention en Argentine. Et puis, juste un dernier point sur la question de l'arbre de la démocratie. J'ai pas eu le temps de finir ma réponse à l'intervention de Natacha. Vous avez tout à fait raison. En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que ces populismes vont bouleverser complètement nos institutions? Et parlons clair, si en 2027 le Rassemblement National arrive au pouvoir, est-ce qu'il va bouleverser complètement les institutions à partir de cette idée que la souveraineté populaire est sans limite, donc de réduire un certain nombre de contre-pouvoirs, comme c'est annoncé, la contestation d'État de droit, de remettre à un strict minimum, par exemple, le Conseil constitutionnel, ou bien Est-ce qu'il y a les capacités que moi je qualifie d'acculturation de la démocratie, c'est-à-dire de métamorphoser, de métaboliser ces formations? Alors pourquoi je fais cette réflexion? Là, c'est ma dimension comparative avec l'Italie, parce qu'en Italie, effectivement, cette démocratie qu'on dit toujours faible, en fait, a cette capacité d'absorber les chocs protestataires, d'absorber les chocs populistes et de métamorphoser, de métaboliser. Rien n'est joué encore en Italie actuellement, mais en tout cas, ça se pose parce qu'il y a cette culture de la médiation qui est très importante en Italie. Est-ce que ça sera le cas en France ? C'est un grand point d'interrogation, mais le dilemme, il est là.
Et l'exemple américain est un petit peu inquiétant à cet égard.
Exactement, exactement.
Alors, en fait, je voulais vous interroger sur le populisme de gauche, mais je voudrais quand même...
Oui, parce que non, mais c'est important quand même, parce que vous avez cité l'extrême droite au pouvoir potentiellement en 2027.
Votre livre est recentré sur la France, et si on le recentre sur ce qui est la deuxième partie de votre livre, c'est-à-dire sur les néo-populismes contemporains, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que le populisme n'est pas synonyme d'extrême droite, que c'est un concept en soi, et qu'il peut y avoir un populisme de gauche, qu'il y a eu un populisme de gauche. Vous citez des moments communistes, notamment autour de Thorez, les Mao, la cause du peuple, les établis, le tapisme, si tant est que Bernard Tapie soit une idéologie, mais et qu'il y a un populisme de gauche, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, qui est le mélenchonisme LFI. Parce que ça peut surprendre des auditeurs que vous qualifiez le mélenchonisme de populisme, même si lui-même d'ailleurs est revendiqué parfois. Donc en quoi est-ce un parti qui peut être populiste? Et deuxième question, il y a eu différentes phases dans le mélenchonisme. Il y a eu un tournant en 2014 que vous analysez dans un des essais de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il dit « le clivage central n'est plus le clivage gauche-droite, c'est entre le peuple et l'oligarchie », donc disons le tournant populiste. Mais il y a eu en 2022, avec la NUPES, puis avec le nouveau Front Populaire, un tournant retour, ouais, classique vers l'union de la gauche. Ma question, c'est est-ce que ce sont des stratégies qui se succèdent ou qui cohabitent? Est-ce que le populisme est un populisme conjoncturel ou structurel?
Marc Lazare.
Dans le cas du populisme de gauche.
Dans le cas même du populisme mélenchoniste.
D'accord. Oui, je pense qu'il y a une dimension populiste, vous l'avez rappelé, pas immédiatement. Hein, lorsque Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti Socialiste, qui fonde le Parti de Gauche, il n'est pas du tout dans cette perspective-là. C'est à partir de 2014, vous l'avez rappelé.
Le tournant 2014.
Moi, j'appelle ça le tournant de 2014, où après la campagne où il s'est fait remarquer en 2012, il dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai commis une erreur, la gauche et la droite, c'est fini, vous venez de le rappeler. Et donc, il y a un peuple contre les élites. Il y avait déjà des éléments. Une oligarchie avec un instrument, enfin, une référence au ballet. Alors ça m'intéresse beaucoup. Parce que le ballet, on le retrouve depuis Bélanger, on le retrouve dans les années 30, on le retrouve avec Mélenchon, on le retrouve avec Jean-Marie Le Pen. Le ballet, c'est la tronçonneuse à la française. Voilà.
Le coup de ballet.
Avant la tronçonneuse. Et donc, oui, il y a cette idée qu'on peut s'adresser à un peuple, mais... un peuple qui est différent de celui du peuple du Rassemblement National, hein. Ça, précisons-le, c'est un peuple qui est composé de différentes personnes, de différents éléments. Il y a une analyse très forte chez Jean-Luc Mélenchon, et il y a un gros travail théorique qui est fait par Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est un des responsables politiques qui lit le plus, sans doute, qui pense le plus, qui en permanence essaye d'adapter un certain type de stratégie très pragmatique, et en même temps qui théorise en permanence. Je crois en plus, étant donné son âge, qu'il y a aussi l'idée de transmettre des choses à la nouvelle génération, qui est très représenté dans son mouvement. Et donc, c'est un élément très important. Et pour lui, le peuple, à partir de 2014, il est métissé. Donc,
créolisé.
On voit bien ce que ça veut dire. Et maintenant, c'est créolisé, avec en plus, du coup, une plus grande souplesse sur la République et sur la laïcité. Mais oui, Gilles Finkelstein, dans le populisme de gauche, comme dans le populisme de droite, il y a une tension. Il y a une tension qui travaille ces mouvements. Et quelle est cette tension? C'est d'un côté l'appel au peuple en général contre une minorité, et de l'autre côté se situer dans ce qui reste un clivage fondamental en France, la gauche et la droite. Ce clivage n'existe plus comme il était organisé auparavant, mais culturellement, il a encore un effet. Les cultures politiques ont des vies plus longues que les partis qui les ont constituées. Donc c'est un élément important. Et cette tension, c'est est-ce qu'on se situe justement dans l'opposition terme à terme entre le peuple et une minorité c'est ce que dit de temps en temps Mélenchon. Et d'autres moments, en fonction des conjonctures, on reprend la gauche contre la droite. Et c'est la même chose d'ailleurs du côté du Rassemblement National. Et d'ailleurs, en ce moment, au Rassemblement National, il y a manifestement une tension qui cristallise autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella, exactement sur ce sujet.
Mais est-ce que vous pourriez dire que le président de la République, qui s'est toujours présenté comme l'opposition rationnelle au populisme, il l'a encore montré cette semaine lors de la réunion à laquelle Gilles était convié à l'Élysée, est-ce que lui-même, en tentant de dépasser le clivage gauche-droite, a préparé aussi le moment populiste que l'on vit aujourd'hui ?
Je ne pense pas qu'il l'a préparé, mais il s'est inscrit dedans. Il s'est inscrit dedans et c'est ce type de populisme intermittent dont je parle, c'est-à-dire que dans certaines occasions, notamment en 2016-2017, lorsqu'il se lance dans sa première campagne présidentielle, je le rappelle dans le livre, il se présente comme un candidat anti-système, il dit parfois qu'il est aussi le candidat du peuple, c'est un élément important et qu'est-ce que ça prouve ? C'est que ce populisme gagnera ou ne gagnera pas le pouvoir, mais il a déjà gagné à transformer le mode de faire de la politique. Et même ceux qui veulent combattre le populisme, oui, comme Emmanuel Macron qui s'est affronté deux fois à Marine Le Pen, oui, y compris d'autres leaders politiques, François Bayrou, ouais. Nicolas Sarkozy ouais. aussi, vont utiliser un certain type de style et de stratégie empruntée aux populistes. Et ça, on le voit partout en Europe, c'est le dilemme de ceux qui veulent s'opposer aux populistes.
Natacha.
Et le sujet, me semble-t-il, c'est quand même de comprendre ce qui peut provoquer les attentes qu'on peut appeler aujourd'hui populistes. Parce que l'exemple d'Emmanuel Macron est tout à fait caractéristique. Il utilise un style populiste, mais tout en repoussant toute forme de critique du côté du populisme et donc comme ne présentant pas, n'étant pas une alternative possible pour les citoyens. Ça rejoint selon moi ce que vous expliquez par exemple sur le gaullisme. C'est très intéressant.
On vous entend un peu moins bien, Natacha, qui est un peu à distance aujourd'hui, mais peut-être Marc Lazare, vous avez entendu le début.
Oui, je crois avoir compris.
Oui.
Je crois avoir compris et je vous donne raison. Je pense que la grande force aujourd'hui des populistes, c'est d'abord de se présenter à la différence des populismes du passé. C'est pour ça que je parle de néo-populistes, non plus comme des mouvements, des partis, des responsables qui veulent installer un régime d'autorité, parce que c'était ça, essentiellement dans les années 30 avec Poujade, mais comme des gens qui sont les meilleurs des démocrates. Et effectivement, les meilleurs des démocrates, en disant au Parti traditionnel, vous avez peur du peuple. Et ils ont raison, je le dis dans le livre. Actuellement, surtout en France, il y a une crainte des élites de... Mais c'est une vieille crainte en France, c'est une vieille crainte historique des furies populaires, on disait au XIXe siècle, des grands mouvements de révolte, parce que nous sommes des pays qui ont connu des grandes révoltes et des grandes révolutions. Mais oui, le populisme aussi exprime du désarroi, de la colère, la recherche de l'espérance, de l'espoir, aussi des émotions que travaillent énormément les populistes. Et donc, pour ceux qui veulent combattre les populistes, qui, d'une certaine façon, n'est pas ma question, moi, j'essaye...
Oui, voilà, de décrire.
Moi, j'essaye de comprendre.
Oui, j'essaye
de comprendre et d'écrire, d'analyser, et je ne cherche pas à donner des recettes, mais je pense que pour ceux qui veulent combattre les populistes, effectivement, il faut répondre à ce qui est à l'origine de ce populisme, c'est-à-dire la défiance politique, les énormes problèmes sociaux, les interrogations culturelles.
Gilles.
Vous avez évoqué tout à l'heure le populisme du centre. Alors, François Bayrou, campagne de 2007, candidat, dit-il, du tiers-état, candidat contre les puissants, et c'est sur TF1, le média le plus puissant, qu'il donne ce symbole d'action. Emmanuel Macron, en 2017, candidat anti-système, vous l'avez dit, candidat contre la gauche et contre la droite, la formule de sa campagne, le renouvellement des usages et des visages, donc une forme de dégagisme. Ma question, c'est est-ce que le populisme est possible dans la conquête du pouvoir, mais pas dans l'exercice du pouvoir ? Parce que, vous dites, il a emprunté des traits au populisme en 2017, mais beaucoup moins en 2022. Est-ce qu'on peut être populiste en étant président ?
Pour Macron, non. Même s'il y a eu parfois des petits retours de flamme, si j'ose dire. Hein. Traverse la rue et tu trouveras un boulot. Bon, voilà, ce type de langage utilisé. Mais évidemment, en plus, avec la crise des Gilets jaunes, ce n'était plus possible. Et par conséquent, encore une fois, dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est pour combattre le populisme et conquérir le pouvoir. Point à la ligne. Ça s'arrête là. C'est pas un mode de gestion. Autre chose est ce que font les populistes quand ils sont au pouvoir. On a trois exemples en Europe. Hein. La Pologne, avec droit et justice, la Hongrie de Viktor Orban et actuellement Giorgia Meloni en Italie.
Natacha.
Oui, la question que je voulais poser sur le gaullisme, vous dites que ce n'est pas un populisme parce que le général de Gaulle, justement, ne croit pas que le peuple soit par essence bon et n'a pas de détestation de la pensée, de la raison, de l'intellect. En revanche, vous racontez qu'il a créé le Conseil constitutionnel à minima et vous vous réjouissez derrière que le Conseil constitutionnel ait étendu son pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Est-ce que ce n'est pas une des causes justement du dessaisissement de la souveraineté populaire qui aboutit à un mécontentement des citoyens et donc une demande que vous appelez populiste?
Alors,
je ne me réjouis de rien, cher Natacha.
J'essaie de comprendre.
Voilà, j'essaie de comprendre et de noter qu'effectivement, il peut y avoir une propension, il y a pu avoir une propension de Gaulle et donc du gaullisme au populisme, tout en disant que je ne conclus pas, en fonction de ma définition du populisme, que de Gaulle est à classer dans le populisme. Et oui, je prends l'exemple du Conseil constitutionnel pour dire que normalement, un populiste n'aurait jamais fait ça. Mais à l'époque, je rappelle que le Conseil constitutionnel tel que c'était conçu en 1958, c'était pour surtout contrôler le Parlement. Alors, il a pris une autre forme. Encore une fois, je ne m'en réjouis pas. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a une série de contre-pouvoirs qui font partie de la démocratie libérale et représentative. Mais là où je rejoins, c'est que l'attention actuellement, c'est deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent, d'autant plus qu'il y a l'administration américaine et qu'il y a un vice-président qui théorise ça. D'un côté, c'est l'idée, la démocratie, c'est l'expression de la souveraineté populaire sans limite, et de l'autre côté, il y a une conception de la démocratie libérale et représentative avec des contre-pouvoirs. Nous sommes maintenant dans un schisme sur la question de la démocratie qui fait penser, et je pèse mes mots, au schisme religieux du XVIe siècle.
Et d'ailleurs, vous achevez votre livre avec des propos qui sont rassurants ou inquiétants, c'est selon lesquels, bien sûr, l'avenir des démocraties, au fond, est entre les mains des citoyens. Merci beaucoup, Marc Lazard, d'avoir été avec nous pour ce grand face-à-face. Pour l'amour du peuple, l'histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle, c'est à lire chez Gallimard. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du grand face-à-face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Jérôme Ragano était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour les trois derniers épisodes de notre conversation pile dans la actualité avec Benjamin Stora, ça s'appelle France-Algérie, anatomie d'une déchirure. Et cette conversation, vous pouvez l'écouter en podcast sur l'appli Radio France et même la lire, largement enrichie de cartes, d'encadrés et de graphiques. Le livre vient de sortir, c'est une coédition Les Arènes France Inter.